Je vous vois pas tous, c'est un peu gênant. Je m'éloigne là parce que... Ah. On va ouvrir la parole ce matin et pour ceux qui sont pas là régulièrement ou si vous avez loupé le début, en fait on est dans l'épître de Tite, la lettre de Tite, enfin la lettre à Tite plutôt, de Paul. Et on suit en fait, on est dans le premier chapitre pour l'instant. Si vous avez loupé, vous avez loupé que deux messages. Donc c'est une petite lettre, on a déjà découpé en trois le premier chapitre. Alors en fait c'est Paul qui envoie Tite en Crète, qui s'occupe des églises là-bas, qui les met en ordre, qui l'institue des anciens, qui il donne des consignes pour que ça se passe bien dans les églises. Et on a choisi d'étudier cette lettre parce qu'on se dit, bah, nous on est une jeune église aussi, et on a besoin peut-être des conseils de Paul. Qui donne à un pasteur ancien qui est là aussi pour transmettre ce message. Et donc, si je fais un petit résumé, on a découpé au début, donc vous pouvez prendre, alors c'est Tite, c'est page 785, si vous avez les Bibles blanches. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours lever la main. Si vous n'en avez pas du tout, vous la gardez. Alors, Tite 1 à 4, Paul, il a rappelé son autorité en tant qu'apôtre. De quelle autorité il parle à Tite ? Et sa responsabilité de conduire les croyants dans la vérité, dans la foi et dans la vérité. Il nous rappelle que l'évangile est vraiment au cœur de la vie des croyants pour augmenter leur foi, pour alimenter leur espoir, pour faire des progrès. Ensuite, on a vu versets 5 à 9. Et là, Paul explique à Tite que l'Église a besoin de responsables qui sont capables de communiquer l'évangile qui les a eux-mêmes transformés et qui les transforme eux-mêmes au quotidien. Et du coup, il donne un peu il montre qu'on a tous besoin de progresser dans certains domaines, et les anciens en particulier doivent au moins être, en tout cas le terme c'est irréprochable, mais en tout cas ils doivent avoir fait un travail dans la famille. Il cite aussi leur caractère, leur douceur, le fait de ne pas se mettre en colère, et aussi leur capacité à communiquer l'évangile. Et il termine aussi par réfuter les contradicteurs. Et c'est là, en fait, où démarre notre message aujourd'hui. Paul est en train de détailler ce dernier point. Ce qu'on a dit aussi la dernière fois, je reste juste encore une seconde là-dessus, c'est on a dit que on devait tous aspirer à progresser dans ces domaines, la famille, notre caractère, notre façon de communiquer l'évangile. Alors, tant mieux si on aspire à devenir ancien, mais si on n'aspire pas à devenir ancien, c'est pareil, c'est quand même des points pour lesquels on peut progresser. Et on a vu deux choses la dernière fois. C'est, premièrement, c'est pas hors de notre portée. Si Dieu nous le demande, c'est que c'est pas impossible. Pourquoi ? Parce que c'est la grâce qui fait ça en nous. C'est pas nos efforts, c'est pas tout ce qu'on va déployer comme stratégie qui va nous changer. Mais d'un autre côté, c'est pas si facile non plus, parce que ça demande d'obéir. Ça demande de se soumettre à la parole. Ah, on m'entend plus ? Si. Et du coup, c'est pas si simple non plus. Hein. Mettre en pratique ce que Jésus enseigne, c'est toujours, ça nous remet en question et c'est toujours, toujours un peu douloureux. Enfin, c'est parfois un peu douloureux. Alors, on attaque Tite 1, versets 10 à 16. Et finalement, Paul explique maintenant pourquoi il faut des anciens qui sont capables de réfuter les contradicteurs. Et en gros, la réponse rapide, c'est que il y aura toujours des opposants à la vérité. La vérité sera toujours combattue. Et Paul avait déjà ce sentiment, et je pense que c'était pas qu'un sentiment, il le voyait en Crète. Et vous allez voir que, vous vous rendez peut-être compte qu'aujourd'hui c'est pareil. C'est pas parce qu'on est 2000 ans plus tard que ça a changé. Alors je vais lire page 785. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les personnes issues du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétent pour la moindre œuvre bonne. Paul, il y va cash. Ah, j'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est bon, ça marche. Si je devais donner un titre à ce passage, ça serait « La gestion des opposants à la vérité ». Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? Et puis, finalement, j'ai fait une phrase qui me donne mes quatre parties, c'est bien pratique. La phrase, ça serait des opposants tenaces, avec un évangile corrompu, qui sont repris sévèrement pour le bien de la communauté. Et c'est ce qu'on va regarder, et on attaque direct. Les opposants tenaces. C'est qui ces opposants tenaces? C'est des gens insoumis, qui ne veulent pas se plier à la parole de Dieu. Verset 14, il dit « Des hommes qui se détournent de la vérité ». Verset 16, ils prétendent connaître Dieu, mais le renient par leur manière d'agir. Alors parfois, c'est des gens issus du judaïsme. Dans ce cas-là, ça veut dire des gens qui voulaient ramener des aspects de la loi à faire appliquer. Des choses à ne pas manger, comme ne pas manger de porc, peut-être des choses de se laver les mains d'une certaine façon, des traditions qu'ils avaient perpétuées. Et dans tous les cas, ils veulent ramener la loi et minimiser la grâce, finalement. Et il y a une autre catégorie que Paul décrit, c'est les crétois eux-mêmes. Et là, c'est plutôt des gens qui ne remettent pas en cause leur moralité déréglée. Ça ne leur pose aucun problème. Leur façon d'être, ils ne veulent pas... ils veulent bien la grâce, mais ils veulent pas voir que la grâce les invite à changer. Ça, on le voit un peu plus loin. Si vous prenez Tite 2, verset 11-12, « En effet, la grâce de Dieu... » Et je saute un petit morceau. « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » C'est bien la grâce qui nous invite à faire ça. Donc on ne cherche pas à avoir une vie parfaite pour mériter quelque chose, mais c'est bien la grâce qui nous a sauvés, qui nous incite à maintenant agir de la façon qui fait plaisir à Dieu. Alors comment ils procèdent ces opposants tenaces? Alors d'un côté, ils donnent des discours creux et vides. Ils séduisent, ils trompent, ils induisent en erreur. Ils passent de la pommade aussi, peut-être, c'est des séducteurs. Et je pense qu'il faut faire gaffe à deux choses. Quand il dit creux et vide, c'est pas qu'ils parlent pour rien dire. Je pense au contraire qu'ils ont des discours qui peuvent être très construits, qui peuvent avoir une apparence de beaucoup de sagesse, beaucoup de complexité. En fait, tu as lu la Bible, mais tu n'as pas bien compris, ce mot ne veut pas dire ça, il veut dire ça, et si tu comprends ça comme ça, tu vas construire quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas si évident à démêler. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, il cible des familles entières pour les bouleverser. Littéralement, c'est les renverser, comme si je prenais un plateau de jeu et pouf, je balançais tout. Le verbe, c'est vraiment balancer. Donc, il cible... plus ou moins consciemment. Je pense pas que les opposants à la vérité sont des gens méchants qui se disent « Je vais rentrer dans une église et je vais corrompre tout le monde et ils vont faire n'importe quoi. » Je suis pas sûr. Il y en a peut-être, quand on voit des pasteurs qui détournent des millions de dollars de leur église, je me dis quand même, ils devaient un peu savoir ce qu'ils faisaient quand même. Mais des fois, c'est pas si évident. Je pense que le danger, c'est qu'on est convaincu d'avoir raison et puis... puis on avance en se disant, les autres, je ne les écoute pas. Et surtout la parole, je ne l'écoute pas. Alors méfions-nous des beaux parleurs, des gens un peu trop séducteurs, qui nous caressent dans le sens du poil, qui nous font entendre des choses qui nous font plaisir. Surtout s'ils ont des révélations directes. Vous savez, la prophétie en Bluetooth. Ça y est, Dieu me parle, j'ai un truc pour tout le monde. Ça peut arriver, et si c'est cohérent avec ce que dit la Bible, amen. Et ça peut être dangereux, si tout d'un coup on écoute plus la personne que ce que dit la parole. Ensuite, toujours dans les opposants tenaces, quelle est leur moralité? Alors leur moralité, en tout cas les Crétois, ils avaient une double réputation. C'est une double réputation des menteurs et des arnaqueurs. Alors mentir, c'est un sport national, c'est-à-dire que carrément, à l'époque, les historiens nous rapportent qu'en fait, ils avaient créé un verbe, c'était passé dans le langage courant, le verbe « créter ». Ça voulait dire mentir, quoi. Mentir, exagérer, minimiser, et tous ces trucs-là. Donc, on disait « arrête de créter, là, tu essaies de m'embobiner ». Et arnaqueur, bah, c'était aussi passé dans le truc courant, c'était bah, toute personne capable d'extorquer un bien, de rouler quelqu'un d'autre, était un peu un héros. Et le super-héros, c'est celui qui est capable d'arnaquer un arnaqueur. Dans ce cas-là, on disait créter un créteur. Là, tu étais au top dans la culture de cette île. Et ce que je me dis, c'est que si Paul nous parle de ça, c'est que de baigner dans cette morale un peu moyenne, de parler, de mentoter, de se complaire là-dedans, ben ça nous ouvre finalement. Ça attaque notre système immunitaire spirituel. Ça le rend moins fiable. Et du coup, ben, on va un peu plus facilement écouter des sirènes, écouter des trucs qui ne sont pas vrais. Et si on regardait la France alors? C'est facile de dire les Crétois là. Si regardez la France, qu'est-ce qu'on peut dire de la France, de nous? Qu'est-ce que Paul nous dirait? Mange trop de fromage? Non, je pense pas. C'est bien ça. L'individualisme, l'appât du gain, l'hédonisme, le fait d'aller du plaisir tout de suite, maintenant, et on réfléchit pas aux conséquences. Les râleurs. Les éternels insatisfaits, les insoumis, les rebelles à toute forme d'autorité. C'était De Gaulle qui disait, c'est pour ça que j'ai mis cette image, De Gaulle disait, mais comment vous voulez gouverner un pays où il y a 258 variétés de fromage? Et en plus, il avait tort, parce qu'il y a plus de 1200 variétés de fromage. Donc c'est bien pire que ce qu'il croyait en plus. Ouais, superficiel, insoumis, moqueur, toujours tout tourné en dérision. Nous caractérise bien ici en France. Dès qu'il y a une réforme, ouh là là, ça va être nul, c'est pourri. Et donc plus on baigne là-dedans et puis on veut pas en sortir, ben je pense qu'on est sujet à finalement écouter un évangile corrompu et à peut-être y mettre un peu trop notre foi. Ce qui m'amène à ce fameux évangile corrompu. Alors, il y a deux types. Paul donne deux types d'évangiles corrompus. D'un côté, il parle de fables juives, et puis il met en balance avec des discours creux et trompeurs. Alors pour ce qui est des fables juives, donc là il dit surtout parmi les circoncis. Donc si on prend Tite 3 verset 9, on voit qu'il détaille un petit peu tout ça. Il parle de spéculation, de généalogie, de disputes, de conflits sur la loi. Et il dit que tout ça, ça sert à rien. En gros, c'est rajouter des commandements, c'est alors pour nous, bah, ça serait décider de pas manger de porc ou de se réunir le samedi parce que ça serait mieux que le dimanche et en faire vraiment un truc. Je veux dire, à la limite, j'ai pas de souci, on peut se réunir le samedi. Mais c'est d'en faire quelque chose de fondamental pour notre foi. On n'est pas un vrai chrétien si on fait pas comme ça. En gros, c'est le salut. Il est en Jésus, mais plus autre chose. Et c'est un peu de la justice de Jésus et un petit peu de la mienne quand même. Et là, faut être clair, il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est soit je viens à Dieu avec ma propre justice, et je décide que je mets de côté celle de Jésus, j'y renonce totalement. Soit je viens à Dieu avec la justice de Jésus, et je renonce totalement à la mienne, à mes propres efforts et à ce que je pourrais faire pour la mériter. Du coup, ça veut dire que si on veut se convertir, si on veut croire en Jésus, et arriver devant Dieu avec cette justice, ben, il faut renoncer, il faut se repentir, bien sûr, de nos péchés, mais il faut se repentir aussi de nos bonnes actions. Se repentir sur le fait qu'on ne pourra jamais rien mériter. Enfin, faut l'accepter, ça. Et, ouais, accepter qu'il a tout fait, que tout vient de sa grâce. Des discours creux et trompeurs, maintenant. Deuxième. Et là aussi, je vais prendre deux exemples sur les discours creux et trompeurs. Il y en a plein, et c'était difficile de choisir. J'ai pris deux exemples, un qui est tout proche de l'époque de Jésus, dans le 1er, 2e siècle, en 160, 175, 160, 180, juste après, voilà, donc, après la naissance de Jésus. Et puis un autre qui est beaucoup plus contemporain. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas des gros écarts, en tout cas sur l'origine du problème. Alors mon premier exemple, c'est Irénée de Lyon, je ne sais pas si vous connaissez, Irénée de Lyon qui a combattu les gnostiques à l'époque. Et il décrivait ça comme les thèses délirantes thèse délirante des gnostiques. Il a écrit cinq bouquins pour dénoncer. Il prend un bouquin entier pour dénoncer leur théorie, puis ensuite un bouquin pour expliquer pourquoi c'est faux, puis ensuite un bouquin. Enfin, bref, c'est long, mais c'est des fois assez rigolo. Il donne des citations assez marrantes. C'est un peu triste aussi, mais il explique que tout a commencé avec Simon le magicien. Et ce que j'aimais bien dans l'exemple, c'est que Simon le magicien, on le connaît, on le voit dans la Bible. Et puis, il aurait eu des disciples, notamment un certain Nicolas, qui a donné la doctrine des Nicolaïtes. Et là aussi, on en parle dans l'Apocalypse. Et Jésus qui reproche ça à une église. Tu as des partisans de cette doctrine des Nicolaïtes. On parle de doctrine de démons, d'ailleurs. Donc, c'est la charge est lourde sur ça. Et donc, je vous donne en gros leur thèse. Bah, c'est on a tous... En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une grosse différence entre le spirituel, l'esprit... Et puis le physique. Donc ce qui est le plus important et ce qui est vrai et ce qui est bien, c'est tout ce qui est spirituel. C'est notre âme, c'est ce qui est immatériel. Et le matériel, c'est le mal. C'est nul. Et du coup, ben nous, on a toute une petite flamme divine qui est emprisonnée dans notre corps. On est emprisonné dans ce monde matériel. Et puis, ben, on aspire qu'à une chose, c'est à quitter ce truc matériel et à retourner dans la grande flamme divine qui va nous voilà, retourner à ça. Et je vais vous montrer une de leurs interprétations, c'est vraiment, on prend les mots et puis on les change par autre chose et on construit des théories. C'est très compliqué, hein. C'est un peu comme le schéma qu'il y a là derrière, c'est très compliqué. Il y a plein de trucs à comprendre, en fait, quand on parle de Dieu, c'est pas vraiment Dieu, mais c'est un sous-Dieu, puis il y a un autre Dieu au-dessus du petit Dieu, puis un grand Dieu, puis... Enfin, c'est très complexe, c'est de quoi vraiment se prendre la tête. Mais je vous donne un exemple. Ils prennent par exemple Matthieu 5, versets 25 et 26, c'est dans le Sermon sur la montagne. Et il dit, alors je vous lis le verset, puis je vous explique comment il l'interprète. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jésus parlait évidemment de se mettre d'accord avec, si on n'est pas d'accord avec un frère, et qu'on a quelque chose contre lui, et que... Voilà. Alors, l'explication des gnostiques. L'adversaire... C'est le diable. Donc mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, mets-toi rapidement d'accord avec le diable. Parce que ce diable va conduire l'âme des défunts à l'archonte. L'archonte qui est l'auteur du monde, le juge, dans le verset. L'auteur du monde, vous avez vu, c'est pas Dieu. Hein. C'est un archonte qui est appelé le juge. Et cet archonte, lui, va donner les âmes à un ange. Enfin, il va les juger. Hein. Il va dire, toi, t'es pas bon. Donc il va donner ses âmes à un ange qui, lui, s'appelle l'officier de justice. Et qui va réenfermer ton âme dans un autre corps, parce que le corps est une prison pour eux. Donc, il va te réenfermer dans un corps, en prison. Et puis là, on lit la fin du verset. Tu n'en sortiras pas jusqu'à avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Donc, il faut que tu sois dans ce corps, que tu fasses toutes les actions possibles pour te libérer. Alors, toutes les actions possibles, vous doutez bien. Bon, là, en l'occurrence, eux, c'était coucher avec tout le monde, quoi. Alors, ça fait rire, mais... Et ça fait beaucoup d'histoires et beaucoup de mots qui ne sont pas les vrais mots pour en arriver à des trucs comme ça. Et pourtant, c'est bête, il suffisait de lire le Matthieu 5, 27, donc le verset d'après. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est bête, ils avaient juste à lire le verset suivant, c'est pas compliqué. Mais bon, en gros, ça vient d'où le problème? On prend la Bible... Elle ne veut pas vraiment dire ce que tu as lu, ce que tu as compris, c'est pas vraiment ça. La gnose, c'est le fait de se dire c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois. Il y a des mystères et des secrets qu'il faut comprendre. Et Paul parle de secrets. Paul parle de mystères. Et ça veut dire quoi à chaque fois qu'il en parle? Le mystère qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, c'est qu'est-ce qu'allait faire Jésus? Le fait qu'il allait mourir pour nous, le fait qu'il allait prendre le poids de nos péchés. Ça, c'était un mystère, mais il a été révélé, ce mystère. Donc, il surfe un peu là-dessus. Allez, un autre exemple qui est beaucoup plus récent. Alors, je sais que c'est pas facile de parler de mouvement chrétien aujourd'hui, et je voudrais pas rentrer dans la critique de dire qui a raison, qui a tort, et est-ce que ce qu'ils font est bien ou pas bien. Je veux juste attirer votre attention sur certains points de, finalement, de doctrine. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce qu'on pourrait, nous, être d'accord avec ça? Ce qui est derrière moi, là, c'est un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Réforme Apostolique, qui a démarré en 2000. Et ils ont décrété que les dons qui avaient disparu, comme les dons d'apôtres et de prophètes, en 2001, ils sont revenus. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. On rentre dans la fin des temps, ça on a l'habitude, hein, on sait que Jésus va revenir. Et ça y est, ça va arriver maintenant, là. Et alors c'est peut-être Dieu lui-même hein, qui a réveillé ces dons-là parmi les gens. Et du coup, il y a maintenant des super apôtres, des super prophètes qui vont avoir des super révélations et qui vont sortir de ce que la Bible enseigne. Alors il y a plusieurs églises qui suivent ces mouvements, alors avec plus ou moins de. Qui vont plus ou moins loin. Il y en a une qui est bien à la mode, c'est l'église Bethel en Californie, c'est à Redding, avec un pasteur senior qui s'appelle Bill Johnson. Et il dit des choses qu'on peut écouter, hein. Il pense qu'on est proche d'un grand réveil. Bon, je veux bien, pas de souci, pourquoi pas. Mais il dit aussi que Dieu veut toujours faire des miracles abondants. Il veut guérir tout le monde, il veut nous rendre, enlever la pauvreté, tout ça, mais que s'il ne peut pas le faire, c'est parce que l'Église n'y croit pas. C'est parce qu'on a peur. Donc si vous êtes malade, c'est quelque part, vous n'avez pas assez de foi, vous ne voulez pas assez, vous voulez pas assez que ça arrive. Par exemple. Alors, là où je commence à avoir un problème, c'est qu'il justifie bien sûr ça avec des versets quand même. Et il dit, il y a un verset qu'on cite souvent, c'est 2 Corinthiens 3, 6. Alors on le cite hors de son contexte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, ou l'esprit donne la vie. Et ce verset, il est souvent cité pour justifier que, faut pas non plus trop s'attacher au texte, faut laisser l'esprit nous guider. Et je crois qu'il faut laisser l'esprit nous guider. Et l'esprit nous guide à comprendre la parole de Dieu, à comprendre le texte, à comprendre ce que Jésus a voulu faire. Pas hors de ce texte. Et si on regarde le contexte, il parle de quoi, Paul, quand il dit la lettre tue? Il parle de la loi. Il parle des tables sur la pierre. Il dit bien sûr que la loi vous tue, parce qu'elle ne vous tue pas en plus directement, la loi. Elle nous tue parce qu'elle révèle notre péché. Donc, elle va causer notre mort. Mais ce n'est pas l'étude de la loi qui cause notre mort. Et pourtant, là, c'est ce qui est sous-entendu. C'est-à-dire, n'étudiez pas trop la parole, pas trop en profondeur, et accueillez tout simplement ce qui va venir. Là, ça commence à me poser un petit peu problème d'entendre ça. Il explique autre chose, c'est que la Bible est fermée. Elle n'est pas compréhensible. Et c'est fait un peu exprès. C'est-à-dire qu'il faut sortir. Il faut sortir de. Il dit qu'il faut sortir hors de la carte. C'est-à-dire que la Bible, c'est une carte que Dieu nous a laissée, mais elle est pas vraiment compréhensible. Et il faut avoir de la foi pour sortir en dehors de ça et découvrir d'autres choses bien meilleures. Je pense que là aussi, c'est alerte rouge, hein, sortir hors de ce que la Bible dit, avoir des révélations qui vont au-dessus, qui vont être plus importantes que la Bible. Je pense que là, c'est dangereux. Et aujourd'hui, ils sont sur pas mal de points, ils sont pas mal hors de la carte, justement. Ce que vous voyez derrière moi, là, c'est le marketing est un peu meilleur hein, que les gnostiques. Les gnostiques, on ne comprend pas grand-chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le dominionnisme, c'est-à-dire qu'le chrétien doit reconquérir ce monde. Donc, on doit reconquérir les sphères de pouvoir, la famille, l'éducation, la politique, les affaires, les médias, la culture, la religion. Parce que Adam et Ève, on leur a donné le pouvoir sur la terre, ils l'ont perdu avec le péché, mais maintenant qu'on est sauvé, il faut qu'on reconquérisse tout ça. Et ils utilisent d'ailleurs la fin de Matthieu, faites des disciples de toutes les nations, qu'on traduit un tout petit peu différemment, discipuler les nations. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans, on doit prendre le pouvoir, on doit créer ça, de force, de gré ou de force. On doit devenir tellement puissant qu'on fait ça. Et je trouve qu'on s'éloigne un peu de ce que la Bible nous dit là. On s'éloigne un peu. Carrément même. Carrément. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? la joie, la paix, la bienveillance, l'amour, la foi, la maîtrise de soi. Là, j'ai l'impression qu'on va faire la guerre, là. J'espère que non, hein, mais... Alors, évidemment, dans ces mouvements, on retrouve des écoles de prophètes, des écoles de surnaturel. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Bref, pareil, pour qu'on puisse prendre le pouvoir sur un lieu. Ça, on a vu ça, parce que malheureusement, on a rencontré une église qui est un peu proche de ce genre de mouvement. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On est allé les voir, on s'est pas dit, oulala, ils sont très bizarres, ces gens. Mais on s'est renseigné quand même, sachant quel était un peu leur mentor, entre guillemets. Et on s'est rendu compte que pour que Dieu puisse agir, pour qu'il puisse y avoir des conversions, il faut dépendre d'un super apôtre. Ce super apôtre, c'est un apôtre territorial qui, lui, va délivrer le territoire de Pontcherry et de Crémieux de l'influence de Satan. Et si on n'a pas ce super apôtre... Elle va trop vite. Si on n'a pas ce super apôtre, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que vous pouvez bien aller prêcher dans la rue. Tu l'as lu avant, non? Évidemment, il faut payer ce super apôtre. Et dans l'Église, il faut suivre les fameuses formations. L'école de prophètes, l'école de... Voilà, des formations comme ça. Évidemment, elles sont payantes. Mais si vous ne voulez pas y participer, ce n'est pas grave. Vous resterez juste des chrétiens charnels, ce que Paul appelle des chrétiens charnels, qui n'ont pas d'influence, qui sont peureux et qui vont devoir simplement étudier la Bible et comprendre ce qu'elle nous dit, mais bon, ils n'y arriveront pas parce qu'elle est fermée. Je trouve ça dangereux. Et puis ça existe encore aujourd'hui, là j'ai parlé de Californie, mais ce fameux Bill Johnson, il était à Cergy-Pontoise en 2015. Il y a des amis à lui qui étaient à Genève en 2016 pour un événement qui s'appelait Mystical School. Moi j'ai l'impression d'entendre... Je sais pas, moi, le Harry Potter et l'école des sorciers, mais je sais pas. Et il y a un truc dont on s'est rendu compte avec Laurence quand on est allé dans cette église, c'est qu'on parle surtout de puissance, voire de puissance brute. On parle de l'esprit comme d'une puissance, mais on parle plus d'un Dieu personnel, ou beaucoup moins. On parle pas vraiment de Jésus ou de son influence, ou de ce qu'il a fait pour nous. Et là, c'est vraiment une expérience personnelle. On est allé dans une église comme ça un dimanche. Et il y a un truc qui m'a frappé complètement, on s'est dit avec Laurence en sortant. On a réussi à faire un culte complet, donc des chants, des prières, la scène, sans prononcer, personne n'avait prononcé une seule fois le nom de Jésus. Dans aucune parole d'aucun chant, dans aucune prière, présenter la scène, vous imaginez, on le fait presque tous les dimanches ici, présenter la scène sans prononcer le nom de Jésus. Ça m'a tellement choqué ou surpris que moi, toutes les prières que j'ai faites, j'ai mis le nom de Jésus à toutes les phrases. J'essaie de compenser. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils l'ont fait exprès, en fait. Je pense qu'ils aiment Jésus. Je pense pas qu'ils sont... je les connais, en plus. Ils n'ont pas été choqués que moi, je dise le nom de Jésus. Mais on voit autour de quoi tourne la discussion, la puissance, l'effet que ça va faire, les guérisons. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu le plus important. Alors, j'ai cité un vieil exemple, un exemple plus récent, mais ça fait 2 ans que j'étudie l'histoire de l'Église, et ça va pas vite, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à apprendre, et c'est sans arrêt les mêmes erreurs qui sont répétées. Il y en a 3 principales. La Bible n'est pas fiable, ou elle n'est pas suffisante, ou on ne peut pas la comprendre, on est un peu benêt. Il faut être vraiment calé pour la comprendre. Jésus n'est pas Dieu. Ou alors, il n'est pas si important que ça. Enfin, c'est un Dieu, mais il faut passer. Ou notre destinée éternelle ne dépend pas uniquement de la grâce de Dieu. Il y a toujours un de ces 3 points qui est attaqué, et après on peut faire plein de mélanges là au-dessus. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ça attire les foules? Parce que franchement, ça attire les foules. Il y a plein de gens qui suivent ces mouvements. C'est les bouquins qui se vendent le mieux. C'est les réveils. Voilà, moi j'aimerais un réveil. Je voudrais bien un grand réveil. Pas une grande apostasie, s'il vous plaît, un grand réveil plutôt. Ben, c'est surtout parce que c'est centré sur l'homme. C'est centré sur nos besoins. Alors légitimes ou pas, mais c'est nos aspirations, nos petites idoles, ou grandes idoles. La volonté d'avoir de la santé, de la puissance, de l'influence, d'avoir une vie qui compte, d'avoir de l'argent, quand on n'en a pas surtout. Quand on en a, on se rend compte que ça ne suffit pas. Quand on n'en a pas, on pense que c'est ça qui nous manque. Ou l'acceptation de nos semblables aussi, le fait de faire partie de quelque chose qui va se passer de grand. Et on voit à chaque fois l'évangile de prospérité, là où il marche le mieux, c'est là où il y a plein de misère. C'est en Haïti, quand ils se font défoncer par un ouragan, et là c'est là où ça fleurit partout. En Afrique, par exemple, j'ai vu un reportage où en fait il disait qu'une église, ça rapporte plus qu'une discothèque. Donc tant qu'à faire une église. C'est bon. Les promesses de guérison, bah, c'est sûr, ça marche mieux avec les malades. Hein. Les autres, ça va. Et on pourrait parler de la guérison. Hein. Je crois que Dieu guérit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je crois au miracle. C'est pas le problème. C'est un problème d'emphase. Promesse de se sentir mieux, plus épanoui, mieux dans ses émotions, plus libre. Tout ça, c'est séduisant. Et au verset 11, Paul nous dit « pour un gain honteux ». Alors qu'est-ce que ça pourrait être le type de gain, à part l'argent? Ça paraît évident, en tout cas, pour quand on voit quand certains pasteurs peuvent changer de jet ou de villa, comme ça. Donc on se doute bien qu'il y a quand même un petit attrait. Et des fois, c'est des faveurs diverses. Faveurs souvent auprès des femmes, comme les gnostiques ou d'autres sectes actuelles. Hein. Il n'y a rien de bien nouveau. Avoir du pouvoir sur les autres, sentir important, influent, être le maître, le gourou un peu. Mais bon, il n'y a rien de nouveau. Et à chaque fois, ça commence par la mise en doute de la parole, de l'interprétation classique de la Bible. Ça, forcément, ça, c'est un peu vieillot, faut passer à quelque chose de nouveau. Les révélations, les songes, j'y crois aussi, hein, aux révélations, j'y crois aux... Je crois que Dieu peut choisir de nous parler, de nous secouer directement parce qu'on est aveuglé. Mais je ne crois pas que ça va aller au-delà de la carte, que ça va aller au-delà de la parole. Et Paul demande que les anciens veillent et reprennent sévèrement ses opposants. Et ça m'emmène à la troisième partie, repris sévèrement. On va relire le verset 9 aussi. Il dit que les anciens doivent être attachés à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Réfuter les contradicteurs. Attaché à la parole digne de confiance et réfuter les contradicteurs. Verset 11, il faut leur fermer la bouche. Littéralement clouer le bec. Verset 13, reprends-les sévèrement. Donc les anciens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Fermer la bouche. Le terme grec, là, c'est, avec sévérité, c'est abrupt, de façon tranchante. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il veut dire que c'est trop grave. Par amour pour l'évangile, mais par amour pour vous aussi, pour l'église, pour la communauté, il faut trancher, il ne faut pas laisser faire ça. Alors si on regarde d'autres lettres, Paul parle de reprendre un frère avec douceur, une fois, deux fois, lui parler. Là, il ne parle pas de ça. Je pense qu'il y a des cas différents. Quand c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui sort de ce que la Bible dit, je pense que là, c'est là où il dit qu'il faut trancher. Et c'est pas agréable de se faire clouer le bec, hein, je pense. Mais Paul dit que c'est nécessaire. Moi, ça m'est arrivé, au moins une fois. Et ouais, je m'étais laissé un petit peu... le côté tentant, c'était le développement personnel sauce chrétienne. Ça me faisait un petit peu réinterpréter différemment certains passages. Et c'était tentant pour moi de me dire... Voilà, j'ai une influence, je peux décider mes objectifs, ce que je veux faire, et y arriver par mes forces. Et bah, y a des gens qui m'ont, je peux pas dire forcément qu'ils m'ont cloué le bec, mais qui m'ont dit, là, Mathieu, tu dérapes, là. Fais gaffe, tu t'es plus dans, la vérité. Et ça m'a servi, aujourd'hui, je suis reconnaissant. Même si sur le moment, j'avais pas envie. Je me disais, c'est des jaloux. ils voudraient vivre ce que je vis, puis ils ne le vivent pas, alors pour ça. Mais je crois que c'est pour notre bien. Il faut vraiment être prêt à, enfin, être prêt à écouter au moins, pas à se dire non, mais vous avez forcément tort, parce que vous êtes contre moi. Et c'est ce que Paul dit justement. Il dit, ces gens-là n'écoutent pas. Ils sont rebelles, insoumis à la parole de Dieu. Et j'espère qu'on n'en fera pas partie, que si ça nous arrive de déraper, parce que je pense que ceux qui dérapent pas, il n'y en a pas. Ça s'appelle des gens parfaits. Et si on était parfait, on ne serait peut-être pas là. Mais ouais, qu'on puisse écouter nos frères quand on s'aveugle nous-mêmes. Et c'est parfois nos frères qui nous secouent. J'avais une belle image, dommage. Alors pourquoi reprendre ? Bah pour le bien de la communauté. On va regarder les versets qui nous parlent de ça. Afin qu'ils aient, verset 13, afin qu'ils aient une foi saine. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est verset 15. Ça nous rappelle les paroles de Jésus. Parce que là, on a l'impression, je pense que Paul là parle beaucoup de règles alimentaires que les juifs ou judaïsants voulaient réimporter. Et ça nous rappelle Jésus, ce qu'il disait, c'est pas ce qui entre qui vous souille, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient du cœur, et c'est les mauvaises choses que vous allez laisser sortir si votre cœur n'est pas transformé. Verset 16, ils prétendent connaître Dieu, mais le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Conséquence là sur la communauté, elle est en gros, il n'y a plus rien qui va aller, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on doit veiller sur nous et sur notre enseignement et sur celui que ce qui va se dire ou ce qui va se propager dans la communauté, c'est bien par amour. C'est par amour pour vous, c'est par amour pour l'Évangile, par amour pour Jésus. Alors si je paraphrase un peu les versets 13, 14 et 16. Ben, je prie qu'on ait une foi saine, pas une foi malade. Je prie qu'on soit pur et intègre dans notre intelligence et dans notre conscience. Je prie qu'on soit des disciples qui sont soumis au Seigneur, soumis à la parole et soumis à ceux qui veillent sur nous. Je prie aussi qu'on soit transformable, enseignable, pour nous rendre compétents, par la grâce de Dieu, qu'on nous rende compétents à toute bonne œuvre, à faire le bien. Et pour terminer, j'aimerais faire, en reprenant un peu tout ce qu'on a vu, faire quatre applications ou quatre choses qu'on peut retenir de ce passage. Pour quatre dangers différents. Le premier, pour les chrétiens de longue date. Et je me mets dedans. Quand il dit surtout parmi les circoncis, qui veut dire les judaïsants, ceux qui avaient déjà la loi, tout ça, et puis tout d'un coup quelque chose de nouveau arrive. Ben, ça veut dire que c'était des gens qui étaient déjà, connaissaient déjà Dieu, ils avaient déjà toute leur tradition, tout ça. Et je pense que nous, ça peut nous jouer des tours aussi. On n'a pas envie de quitter nos traditions, on a l'habitude, on a toujours fait comme ça. Pas de raison que ça change. Quand on va lire la parole aussi, on va prendre un temps fou sur des détails, puis on va oublier le sens très clair du texte et ce que ça implique dans notre vie. Ce que ça révèle de notre cœur. Et on va pinailler sur le sens du mot en grec ou en hébreu. Et de toute façon, à chaque fois qu'on va considérer qu'on sait, ben, on ne va pas faire de progrès. Parce qu'on va se dire, de toute façon, moi ça j'ai compris, ça fait longtemps qu'on m'en parle, je n'ai pas besoin d'y revenir. Donc là, ce que ça nous encourage, je pense, ce texte, c'est à rester humble, se dire qu'on n'a pas forcément tout compris, il faut accepter de se remettre en question. Se faire remettre en question par la Bible, puis par nos frères si besoin. Deuxièmement, attention de ne pas prétendre connaître Dieu et le renier par notre manière d'agir. Et là, je vois deux excès, l'excès des pharisiens et l'excès des sadducéens. Alors c'est vrai que ce n'est pas dans le texte, c'est Matthieu 16, verset 6. Attention, c'est Jésus qui parle, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, on ne les connaît pas forcément, c'est des mots bizarres. Les pharisiens, leur excès, c'était l'excès légaliste. Les pharisiens, ils étaient vraiment dans la loi et dans la religion. Et voilà, il fallait faire des choses. Et toute notre relation avec Dieu dépend du respect de certaines règles. Et les sadducéens, eux, ils étaient plutôt dans la politique, ils étaient plutôt dans le monde. Et eux, c'était plutôt des excès un peu, ben, plutôt laxistes. Ils étaient très adaptés à la culture. Ils étaient de mèche un peu avec les Romains, à l'époque de Jésus en tout cas. Et du coup, eux, bon, ils disaient, il n'y a pas tellement de conséquences sur ce que tu fais. D'ailleurs, ils ne croyaient pas à la résurrection. Et de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est un peu les deux dangers qui nous guettent. Qu'on sache trouver l'équilibre là-dedans. Et pas chercher ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire, mais plutôt chercher à quel point Dieu veut nous changer, être ouvert à ce que Dieu nous change. Troisièmement, pour les jeunes ou les jeunes chrétiens, ce texte nous encourage à veiller aux enseignements qu'on va écouter en dehors de l'Église, notamment. Il y a plein d'enseignements aujourd'hui, il y a Internet, il y a YouTube, il y a les podcasts. Bon, les bouquins, ça fait longtemps qu'il y en a. Eh bien, c'est pas parce que c'est écrit chrétien que c'est forcément top. Il y a des trucs, bon, faut. Voilà, si vous avez des doutes, venez nous en parler. S'il y a certains bouquins qui vous paraissent étranges quand vous le lisez, venez nous en parler. On ne connaît pas forcément l'auteur, mais on peut faire une petite recherche et vous dire attention, est-ce que c'est dangereux ou pas? On peut aussi vous donner des noms de sites web qui ont des bons enseignements. Il y a Évangile 21 par exemple, toutpoursagloire.com, Le Bon Combat. Il y en a pas mal, il y a des podcasts aussi, il y en a plein, si vous avez du temps dans les transports en commun. Quatrièmement, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, si vous n'êtes ni vieux chrétien, ni jeune chrétien, vous êtes un peu perdu, vous essayez de puiser un peu des idées à droite à gauche, méfiez-vous des enseignements auxquels vous allez accorder votre confiance. Attention notamment aux gens qui sont liés à aucune église, à aucune organisation. Ils vont vous dire que les églises n'en ont pas besoin, parce que eux, les églises sont toutes corrompues. Eux, ils sont bien plus spirituels, ils ont tout compris, ils ont des révélations directes. Méfiez-vous de ça, parce que ça veut surtout dire que c'est des gens qui ne se plient à aucune autorité. Et ça, c'est un grand danger. Ça peut vous mener à n'importe quoi. Alors pour terminer.